Chelou. À la une, l'énergie thermique des mers et cet appel du pied d'une société au pays. La maison de la reine Marauz, petit problème de zonage pour le projet d'hôtel. Et puis musique pour terminer avec Gabilou. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Lucie, on débute côté mer avec une question. La Polynésie peut-elle être pionnière en matière d'ETM ?
Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, ce sigle ETM, c'est l'énergie thermique des mers, une technologie en forme de serpent de mer qui consiste à exploiter les différences de température entre les eaux de surface et les eaux profondes pour produire de l'électricité. Aucun pays ne s'est doté d'une réelle unité de production depuis les premiers démonstrateurs des années 30. Mais voilà, de longues années déjà que certains discours de politiques ou de promoteurs veulent faire de la Polynésie une pionnière en la matière. Aujourd'hui, c'est une société locale d'ingénierie qui revient à la charge. Tout est prêt pour concrétiser l'ETM, assurent les dirigeants de Eiraro. Ces spécialistes des énergies marines veulent mettre en avant leur expertise de Bora au Taoné en passant par Tetiaroa sur les SWAC, une technologie qu'ils exportent aujourd'hui. Or, il se trouve que l'ETM, c'est une idée proche de celle du SWAC. Plutôt que d'aller pomper uniquement de l'eau froide pour aller faire marcher les clims, on va aussi aller chercher de l'eau chaude et on en profite pour faire tourner les turbines. Et pour le PDG de Eiraro, Jean Oursou Rigarille, les récifs du Fénois sont de parfaits candidats pour accueillir une première unité de production mondiale et ainsi se placer en tête de proue d'une nouvelle filière industrielle.
De la même manière que le SWAC exploite la différence de température entre l'eau froide des profondeurs et l'eau chaude de surface pour faire de la clim, l'ETM permet de produire de l'électricité. Je vais passer sur les aspects techniques, mais la Polynésie, parce que l'eau froide est très proche des côtes, que nos tombants tombent très très vite. Du fait d'avoir beaucoup moins de cyclones, on a encore vu récemment les dégâts que peuvent faire les cyclones par ailleurs, le fait d'avoir moins de cyclones qu'ailleurs, et le fait d'avoir un prix de l'électricité qui est très élevé, fait que la solution ETM qu'on porte sera performante économiquement et énergétiquement au prix du marché tahitien.
La société Eiraro dit être techniquement prête à construire un ETM de 5 MW. Il pourrait fournir jusqu'à 8% de l'énergie de Tahiti. Mais une dernière opération est nécessaire avant de se lancer, la construction d'un échangeur, une grosse pièce de 12 mètres en titane qui assure le transfert de chaleur. Des tests seront ensuite nécessaires et ça a un coût, 450 millions de francs. Le responsable l'assure, des financeurs nationaux comme la BPI sont prêts à investir la majorité de ces fonds au nom de la relance industrielle française. Mais c'est le pays qui doit être moteur avec un soutien politique et financier clair. Et à entendre Eiraro, il ne s'agit pas de faire un geste pour la science. L'ETM fournira une énergie certes un peu plus chère que celle des centrales solaires, mais une énergie constante et garantie, jour et nuit. Une technologie qui peut donc être un nouveau levier pour se passer d'une partie des groupes diesel de la Punaru. Écoutez.
On est capable de développer une nouvelle énergie renouvelable livrant de la puissance garantie au prix du marché. C'est cette technologie qui permettra de passer le cap et de dépasser les 50% d'énergie renouvelable dans notre consommation électrique.
Voilà Jean Oursou Rigarille qui en appelle donc à la volonté politique pour faire naître cette filière. Il estime que les tests de l'échangeur en usine peuvent durer 18 mois, après quoi des fonds privés pourront prendre le relais pour faire construire en 3 ans un ETM sur le récif, idéalement celui de Tevaiuta. Du côté du gouvernement, on a bien inscrit l'énergie thermique des mers au programme. Elle figure dans la feuille de route de l'économie bleue durable en voie de validation. Et la direction des énergies doit lancer des travaux sur le sujet. Seul problème, l'exécutif a par le passé parlé d'un appel d'offres pour un démonstrateur, ce qui ne convient pas à Eiraro. On peut tout de suite passer à la phase industrielle, assure la société.
Moitei Brotherson veut renforcer la place de la Polynésie au sein de l'Europe.
Oui, vous le savez, le président du pays est actuellement en mission en France et aussi en Belgique. C'est là-bas qu'il s'est entretenu mardi avec le vice-président du Parlement européen. Younous Omarji est aussi chargé des régions ultra-périphériques et des pays et territoires d'outre-mer. Dans un communiqué de la présidence, on apprend que cette visite à Bruxelles visait à redéfinir les priorités pour les années à venir et à positionner la Polynésie comme un acteur incontournable de la stratégie européenne dans le Pacifique. L'idée est temps de mobiliser davantage de fonds européens en faveur de l'adaptation climatique et de faciliter l'accès de la Polynésie aux programmes et aux lignes budgétaires européennes. Le président a aussi rencontré le commissaire européen Kostas Kadis, chargé de la pêche et des océans. Il a défendu les produits de pêche polynésiens, parlant de ces inégalités de traitement entre les armements polynésiens et européens concernant le contrôle des taux de mercure à l'exportation sur le marché européen. Et autre rendez-vous à Bruxelles, une rencontre avec la directrice de la réglementation de ETS Eutelsat OneWeb. C'est le partenaire de l'OPT pour le déploiement d'une capacité satellitaire de basse orbite. Mais ce projet a pris du retard alors que Starlink est de plus en plus présent dans le Pacifique. Et le président du pays était de nouveau à Paris hier. Il doit rencontrer le conseiller outre-mer du président Macron dans la soirée de jeudi et le ministre des Outre-mer Manuel Valls vendredi.
On reste à Paris, Lucie, avec la commission d'enquête sur le nucléaire qui est relancée.
C'était une initiative de la députée Mériana Red Arbelot. L'idée est de travailler sur les conséquences des essais nucléaires français en Polynésie. Lancée en avril dernier, abandonnée avec la dissolution, une réunion constitutive s'est tenue hier à l'Assemblée nationale pour la relancer. Mériana Red Arbelot reprend le rôle de rapporteur tandis que Didier Le Gac reprend sa présidence. Objectif désormais aller le plus vite possible et finir avant une éventuelle nouvelle dissolution en juillet. On écoute la députée, elle était au micro de notre partenaire Outre-mer 360.
Les travaux vont commencer dès la semaine prochaine, donc les auditions commencent le 21 janvier et devraient se terminer au mieux le mi-avril pour un début de rédaction de rapport. Nous visons début juin pour présenter le rapport à tous les commissionnaires. La fin officielle de la commission d'enquête est le 16 juin.
Voilà Mériana Red Arbelot qui rappelle aussi que les auditions de cette commission doivent aboutir à des recommandations pour faire évoluer les règles d'indemnisation et de prise en compte des dommages environnementaux des essais nucléaires. Une mission avec plusieurs parlementaires est d'ailleurs prévue au Fénois pour la fin du mois de mars.
Cette bonne nouvelle maintenant, le marché de l'emploi se porte bien.
C'est en tout cas ce que dit l'ISPF de novembre 2023 à novembre 2024. L'emploi a augmenté de 2,3%. Dans le détail, c'est le commerce qui tire les chiffres à la hausse avec une augmentation de 2,8% en un an. Même chose pour le secteur des services, plus 3,3% sur l'année. Et l'hôtellerie qui reste bien sûr le secteur le plus dynamique sur un an avec une augmentation de 3,5%. Et par contre, ça baisse dans l'industrie et la construction.
Et maintenant, on vous donne des nouvelles de la maison de la Reine Marot.
Rachetée en 2022 par le président de la brasserie de Tahiti, la maison de la Reine doit être préservée, en tout cas en partie, pour devenir la zone de réception d'un futur projet immobilier de Jean-Pierre Fourcade. Des suites hôtelières haut de gamme sur l'emprise de la maison et celle de l'hôtel Thiers et Tahiti. Mais le projet a pris du retard, Caroline Perdry.
Oui, et ce qui bloque, c'est le plan général d'aménagement de la ville de Papeete. La maison de la Reine Marot est en zone UE, ou secteur d'équipement du centre-ville. Dans cette classification rentrent les biens qui sont susceptibles d'être rachetés par le pays et qui ne sont donc pas éligibles à la défiscalisation locale. Et pas de défisque, pas de projet. Pour qu'il avance, il faut que cette emprise soit reclassée en UA, ou zone urbaine dense du centre-ville, comme c'est le cas pour l'hôtel Thiers et Tahiti. C'est en cours, nous dit Rémi Briand, le directeur général des services de la commune, qui a entamé la révision de son PGA. Une question de semaine tout au plus, dit-il.
Voilà, on aura peut-être la chance dans quelques années de visiter cette reconstitution de la maison de la Reine Marot.
Et puis du côté de l'aérien, le vol annulé d'Air Calin est bien arrivé ce matin.
Oui, on vous en parlait ce matin de cette rotation Nouméa-Papeete qui avait été annulée pour cause de panne d'avion de la compagnie calédonienne. Et bien ce vol qui depuis quelques mois est le seul désormais à rejoindre le Caillou à la Polynésie chaque semaine a finalement été reprogrammé et il est arrivé à Fa à 10h30 ce matin. Il repartira cette nuit à minuit 20 vers Nandi puis Nouméa.
En bref, ce nouvel outil pour les secours.
Il s'agit de la technologie Advanced Mobile Location. Elle est déployée en Polynésie depuis le 1er janvier. C'est un système de géolocalisation très précis. Il permet à une personne en détresse de transmettre ses coordonnées GPS par SMS en même temps qu'elle appelle les urgences. Un système qui a déjà été utilisé avec succès pour récupérer deux randonneuses sur le mont Aorei lors d'une récente intervention. Pour le haut commissaire, l'AML permet de gagner en rapidité et en sécurité. Il est pour le moment disponible sur les Android et sera déployé sur iPhone à partir du mois de mars.
Et on termine en musique avec le nouveau spectacle de Gabilou.
Ça s'appellera Gabilou Forever parce que, comme le dit le célèbre crooner, je suis toujours là. Il a fêté ses 60 ans de carrière en 2023 et il n'est pas prêt de s'arrêter. Pour ce nouveau spectacle, il sera bien évidemment entouré de sa famille, de 6 musiciens, de choristes, de danseurs et de 2 invités, Teisho Tetoofa et Teiva Elsé. Une soixantaine de chansons ont été soigneusement choisies parmi un répertoire de 2000 titres. Et devinez quoi, malgré toute son expérience, Gabilou a le track.
Mais ça vient, c'est automatique, c'est drôle, mais alors les gens me disent, mais pourquoi t'as encore le track avec toutes ces années? Je sais pas, je pense qu'il faut avoir le track, il faut avoir le track, ça fait partie du jeu, ça te donne l'envie de bien faire, tu vois.
Voilà, il veut bien faire et ce genre de projet, c'est bien ce qui le maintient en forme, avoue-t-il. Des spectacles à préparer, c'est son énergie, sa motivation, sa santé. Il pense même à plus gros encore, l'Olympia. Après deux dates en 2017 et en 2019, il se verrait bien y retourner une troisième fois, ne serait-ce que pour respecter l'adage « jamais 203 ». Il se souvient bien de la première fois où il est arrivé à la porte de cette salle parisienne mythique.
Quand j'ai été à l'Olympia la première fois, j'amenais un courrier à Charles Aznavour. Il avait un copain ici qui s'appelait Eric. C'était comme une ouverture pour moi en France. On me laisse pas rentrer, c'est le vigile. Il est sorti, il a laissé tout le monde dedans, il est venu me parler. Il dit, mais je vais faire comme vous. Je vais être une star comme vous. Après, on a eu le même manager, donc lui, Nana Mouskouri et Iglesias. Il s'avérait que des fois, quand il chantait, il me prenait en ouverture. Voilà quoi, pourquoi pas l'Olympia encore une troisième fois, je vais y aller.
Et c'est avec cette même discipline et beaucoup de travail qu'il prépare donc Gabilou Forever. Et attention, dépêchez-vous d'acheter vos places, car le Grand Théâtre se remplit vite. Ce sera vendredi 24 janvier à 19h30 à la Maison de la Culture.
On ira ensemble, Lucie, j'espère.
Mais
quand même.
Mais bien sûr, évidemment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci Lucie pour le journal. Maintenant, on passe à la météo sur